19h-20h, les vraies voix écoutent la France, Philippe David.
Et les vraies voix écoutent la France, Philippe David. On est ravis de cette nouvelle émission. On écoute la France, puisque la France a besoin effectivement de parler sur des sujets du quotidien.
Absolument, Cécile, c'est le nouveau nom des vraies voix font parler la France qui avait commencé en janvier dernier. Vous avez la parole, tous les sujets vous sont ouverts, on en débat ensemble, vous en débattez même entre vous. Vous savez, on a un peu le bistrot, le bar, on discute tous entre nous de ce qu'on pense. Et il y a beaucoup de sujets qui vous interpellent ce soir. Il y a déjà l'éducation. On va avoir un témoignage très intéressant dans quelques instants, c'est Didier de Paris, qui était prof vacataire et qui ne l'est plus. On va parler du port du voile, Cécile, puisqu'on en a parlé dans Les Vraies Voix. Est-ce que c'est une bonne idée qu'a eu Jean-Philippe Tanguy, avant d'être pris par Andréa Cotarac, de dire qu'il faut verbaliser les personnes, les femmes qui porteraient le voile islamique? Ou est-ce que c'est une mauvaise idée? On attend vos avis au 0826 300 300. Et puis la Marseillaise et le drapeau tricolore à l'école, vous êtes pour ou vous êtes contre, comme veut le faire Éric Ciotti à Nice? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ça ne changera rien? Et pour tous les autres sujets, on attend vos appels au 0826 300 300.
Tiens, et qu'est-ce que vous dites, vous, sur le téléphone? Est-ce que vous pensez que tous les élèves, finalement, doivent laisser leur téléphone dans le casier sans pouvoir les consulter dans la journée? C'est aussi une possibilité pour vous, 0826 300 300. Bienvenue à tous.
Et vous voulez nous contacter, vous connaissez le numéro, évidemment, le 0826 300 300. Ce soir, c'est Zach qui prendra vos appels. Vous voulez nous envoyer des mails, jeparticipe@sudradio.fr. Vous voulez nous contacter, tous les moyens sont possibles. Et vous nous avez contacté. Bonsoir Didier.
Bonsoir Didier, bienvenue.
Bonsoir, merci. Bonsoir à toute l'équipe.
Alors vous étiez enseignant vacataire. Aujourd'hui, c'est la rentrée des profs. Et vous n'êtes plus enseignant vacataire. Et vous nous avez contacté pour témoigner de ce qu'a été la vie d'enseignant vacataire. Alors, je rappelle que les enseignants vacataires, ce sont des gens qu'on recrute un peu à toute vitesse, on va dire, avec un entretien d'embauche express. Tiens, racontez-nous, comment est-ce qu'on est recruté, Didier, quand on est enseignant vacataire?
Alors, plus exactement, en fait, dans le jargon du ministère de l'Éducation nationale et des rectorats, on parlera plutôt d'enseignants contractuels.
Oui.
Voilà. Alors, vous avez un contrat qui démarre en général fin août, début septembre, quelque chose comme ça, pour correspondre peu ou prou à la rentrée scolaire. L'entretien montre en main, pour moi, il a dû durer, je pense, 20 minutes.
Oui.
Je n'ai eu aucun test à passer. J'ai été embauché sur, au vu de mes diplômes et de mon expérience professionnelle, positionné en tant que tel sur une grille de salaire.
Oui.
Voilà. Et ensuite, rentrée scolaire le 2 septembre en lycée professionnel.
D'accord. Et entretien d'embauche, 20 minutes. En fait, je vous pose une question indiscrète. On vous a posé quel type de questions? Des questions sur votre approche pédagogique, votre image de l'éducation ou la connaissance de la matière que vous alliez enseigner, autant pour moi.
Bah, pour vous répondre, en fait, ces trois items-là ont été évoqués. Grand max, oui, 20-30 minutes, hein, je ne suis pas chronométré, mais ça a duré moins d'une demi-heure, ça c'est sûr. Et beaucoup de questions sur la motivation et le fait qu'on vous prévient tout de suite que ça va être extrêmement difficile.
On vous prévient que ça va être extrêmement difficile?
Oui, tout à fait, et qu'on ne s'attende pas, je dirais, à une population facile.
D'accord. Alors, vous faisiez quelle classe et quelle matière, si vous pouvez nous le dire?
Première terminale.
Pro?
Oui, tout à fait.
Dans quelle spécialité?
Commerce, gestion.
Commerce, vente. Gestion, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez constaté, vous? Alors, vous aviez toujours travaillé dans le privé, dans votre vie, c'est ça?
Absolument, absolument.
Et qu'est-ce que vous avez constaté, vous, en arrivant dans ce qu'un ancien ministre de l'Éducation appelait le mammouth?
Eh ben, c'est bien ça, parce que moi, je m'attendais à ce qu'on soit quand même un peu formé, parce que... quelque chose que je comprends pas, c'est que y a des gens qui font l'agrégation, qui attendent d'ailleurs toujours d'être titularisés. Ils sont très nombreux, mais c'est vrai que ça coûte moins cher de les avoir en tant que stagiaires de l'éducation nationale. Il y en a qui attendent depuis plus de 4 ans comme ça, d'être titularisés. Parce que titularisés, vous êtes payés davantage.
Oui. Alors,
c'était pas mon cas, évidemment. Et donc, moi, j'attendais à être formé, et que ça corresponde peu ou prou à ce que j'allais enseigner. Et finalement, la formation existe. On peut pas dire le contraire. Simplement, elle est pas chronologiquement adaptée. Par exemple, sur la construction des cours, ce genre de choses, bah, vous avez quelques rudiments, mais on vous explique pas vraiment comment faire les choses. Donc, on est vraiment laissé, laissés seuls et finalement, bon, on essaie de se réunir avec d'autres professeurs, mais les professeurs ne sont pas toujours disponibles, ils ont leurs propres impératifs et on peut les comprendre parce qu'ils sont quand même très chargés. Et quand on dit que les profs ne travaillent pas, ce n'est pas tout à fait exact, ils travaillent beaucoup. La grande majorité travaille beaucoup. Et moi-même, bah, j'ai beaucoup travaillé, parfois plus de 55-60 heures par semaine.
Ah oui, ça fait quand même beaucoup. Alors, une autre question, Didier. Vous avez, parce que vous arrivez, vous avez passé un entretien d'une petite demi-heure, c'est ça ? Vous avez quand même le référentiel, le programme pour préparer vos cours ? Parce que vous dites, pas de formation, vous arrivez... J'allais utiliser une expression de service militaire, mais je ne l'utiliserai pas parce qu'elle pourrait choquer certaines oreilles chastes.
Je vois ce que vous voulez dire. Oui, on vous donne ce qu'on appelle le référentiel. Par contre, on vous explique pas vraiment comment l'utiliser. Donc, en fait, vous l'apprenez en fait de façon empirique, mais beaucoup trop tard dans le cursus de l'année. Et par exemple, sur la gestion de classe, la première impression est celle que vous laissez aux élèves. Et là, vous êtes un peu laissé pour compte. Donc, les premières formations, elles sont intervenues plusieurs mois après réellement mon arrivée, ce qui est regrettable. Voilà.
D'accord. Et je vous pose une question, je vous la redonne tout de suite. Les formations, c'était sur le temps des vacances scolaires ou sur le temps de travail ou entre les cours ou comment ça se passait ?
Non, en général, la plupart du temps, c'est pendant les cours. Donc, en fait, on ne donne pas cours quand on est en formation. Et sinon, il y en a eu certaines, effectivement, pendant les périodes de vacances scolaires. Mais c'est pas la grande majorité. Les formations sont bien faites, hein. Les formateurs sont bien motivés, les supports sont intéressants. Il n'y a rien à redire de ce point de vue-là. Mais c'est chronologiquement mal adapté. Parce que quand vous prenez une classe que vous n'avez même jamais rencontrée précédemment et dont on vous donne pas l'historique en arrivant, voilà, en vous disant, tel élève en première, il était comme ça et vous l'aurez en terminale et attendez-vous à tel et tel comportement. C'est très important. Et vous avez 30, entre 28 et 30 personnalités différentes à gérer.
Oui. Il y a autant de personnalités qu'il y a d'élèves, hein, faut le dire en passant.
Exactement. Donc en fait, il faut s'adapter à chaque élève. Bon, et donc on vous dit aussi, oui, vous attendez pas à ce qu'ils prennent des notes, parce qu'on s'attend plus à ce qu'ils prennent des notes, il faut qu'ils apprennent en s'amusant. Voilà, ça c'est un grand leitmotiv des formations, il faut qu'ils apprennent en s'amusant. En fait, la notion d'effort, si vous voulez, ce qui m'a un peu surpris, c'est que la notion d'effort a presque totalment disparu en fait. Oui. Alors je suis d'accord, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été menées en psychologie, notamment sur l'apprentissage, et effectivement quand on s'amuse, on apprend plus facilement. Mais apprendre une table de multiplication, on peut l'apprendre en s'amusant, mais il y a aussi un côté rébarbatif,
oui.
De l'auto-apprentissage aussi de l'élève, en fait, de réviser ses cours, etc., a presque totalement disparu. Sur une vingtaine ou une trentaine d'élèves que j'avais en première terminale, il y en a, je dirais, on peut segmenter la classe en trois tiers. Il y a un tiers qui ne voulait absolument pas travailler, qui se demandait pourquoi il était là. Oui. Un autre tiers qui suivait en fait le mouvement selon que le premier tiers l'entraînait dans telle ou telle direction. Et le dernier tiers, par contre, était plutôt très motivé et travailleur.
Oui. Et est-ce que vous avez constaté un problème de niveau aujourd'hui dans l'éducation ?
Ah oui, oui.
Parce que
oui,
vous étiez au niveau du bac, quand on voit qu'aujourd'hui on est à plus de 90% de réussite sur l'ensemble des bacs, voilà quoi.
C'est dramatique. Moi j'ai été malheureusement surpris dans le mauvais sens du terme parce que, dans les années 60, on avait effectivement une autre typologie de bac. Moi je ne l'ai pas connu parce que je suis plus jeune. Voilà, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien. Et puis après, aujourd'hui, on a, tout bac confondu, on doit avoir à peu près 90-91% de réussite au bac. Le problème, c'est que, en fait, comme le bac, en fait, je vais pas dire qu'on le donne à tout le monde, bien sûr que non, mais, le niveau a largement baissé. Quand vous avez des élèves qui, en classe de terminale, vous les prenez, vous les connaissiez ni Neve ni d'Adam précédemment, et vous leur demandez, 10% de 1500, ils sont incapables de vous répondre.
Oui, ils savent pas que ça fait 150.
Ou même de lire l'heure sur une montre à aiguille.
Ah oui.
Ça me demandait l'heure dans la classe en me disant, on finit quand le cours ? Je leur disais, c'est là, c'est marqué au tableau. Parce que moi, j'essayais justement de retirer, comme on m'avait conseillé de le faire, les téléphones portables dans le cours.
Oui.
C'est pas toujours évident, parce que là aussi, vous perdez sur 55 minutes de cours, vous pouvez perdre à minimum 5 minutes,
oui.
Voire 10 ou 15. Parce que
il y en a qui vont pas le trouver, qui vont être revêches,
voilà.
Etc. Oui.
Voilà, parfois ils ont même deux téléphones, dont un qui est cassé, donc ils vous mettent celui qui est cassé, ils gardent l'autre. Enfin bref, c'est le truc hallucinant.
Alors, ah oui, c'est hallucinant. Didier, On doit faire une courte pause. Restez avec nous. Votre appel fait réagir au 0826 300 300. Tiens, vous êtes prof enseignant contractuel ou enseignant tout court. Vous entendez le témoignage de Didier que je trouve passionnant. C'est lui qui nous a contactés. Venez témoigner. Vous êtes parent d'élèves, tiens. Vous avez dit, les profs, ils n'ont pas le niveau. Nous, on a eu des contractuels qui n'étaient même pas formés. Ou alors, ils étaient très bons, même parfois meilleurs que les profs titulaires. Venez témoigner au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.
19h-20h, les vraies voix écoutent la France. Philippe David.
Les vraies voix écoutent la France tous les soirs du lundi au jeudi de 19h à 20h dans la nouvelle grille des programmes de Sud Radio qui a commencé ce matin. Nous avons Didier de Paris qui témoigne de la vie d'enseignant vacataire. Alors il ne l'est plus à cette rentrée, il l'était l'an dernier et son appel a créé des réactions. Bonsoir Aurore. Aurore ? Allô ? Allô Aurore ?
Oui,
très bien, là on vous entend bien.
Oui.
Alors vous avez entendu, vous êtes enseignante contractuelle, vous aussi, ou vous êtes enseignante titulaire ou stagiaire ?
Oui, moi j'ai passé le concours il y a bien longtemps maintenant. Donc je suis ce qu'on appelle fonctionnaire avec grâce à mon compte, quoi.
D'accord.
Mais je rejoins complètement le collègue qui a découvert cette immense hypocrisie qui est devenue l'éducation nationale.
D'accord. Voilà.
Moi, j'en suis profondément attristée. J'ai repris l'équipe aujourd'hui. Il me reste, c'est ma dernière, mon avant-dernière rentrée, et j'en suis contente parce que je n'en.
Allô, Aurore.
Aurore. Oui, on n'est
pas
bien.
Parce que ça a coupé. Ouais. Vous dites, c'est mon avant-dernière rentrée, et ça a coupé parce que je n'en peux plus. On n'a pas entendu le peu plus, mais c'est ce qu'on a déduit.
Ça, je n'en peux plus déjà sur le plan physique,
oui.
Mais également sur le plan moral. Aujourd'hui, c'était la pré-rentrée dans un collège et je dis alors les télés.
Alors, Aurore, on a un problème de ligne. On vous rappelle immédiatement parce que ça passe très mal. On va reprendre Didier quelques instants et on va vous rappeler parce que la ligne passe très mal. Didier, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, tout à fait. Vous savez, quand on est professeur contractuel, on a en tête, en fait, en étant, je dirais, à la fois réaliste et naïf, on s'imagine bien que ça va pas être ça, mais le célèbre film du Cercle des Poètes Disparus.
Oui, avec Robin Williams, oui.
Exactement, regretté Robin Williams, oui. Effectivement. On en est bien loin. Et effectivement, l'hypocrisie, je pense qu'en fait, tout le système est complètement à revoir. Non pas que les gens qui travaillent au ministère de l'Éducation nationale ne soient pas compétents, c'est pas ça le problème. C'est toute la méthodologie qui est à revoir. Et effectivement, posons-nous la bonne question. Pourquoi est-ce que ce qui marchait autrefois ne marche plus aujourd'hui ? Parce qu'on a changé les méthodes.
Oui.
Tout simplement. Aujourd'hui, en fait, on a aussi quelque chose de nouveau. Le respect, en fait, vis-à-vis, à l'égard du professeur, existe chez certains élèves. Heureusement encore une grande majorité, mais pour certains élèves, non, il n'y a aucun respect.
Alors, Didier.
Il y a même parfois des actes qui peuvent être, dans certains lycées, violents.
Ah, mais c'est clair.
Bon, voilà. Il y a ça, il y a l'absentéisme qui a beaucoup augmenté. Moi,
l'absentéisme des profs ou des élèves ?
Non, les profs sont, d'accord, en tout cas, sont présents. Je veux dire, on a des gens qui sont de bonne volonté, qui sont engagés, qui veulent bien faire, qui veulent le bien-être et dans tous les sens du terme des élèves. Ça, j'en suis intimement, vraiment profondément convaincu. On peut pas retirer ça à qui que ce soit. Bon, il y a peut-être, ici et là, des professeurs qui s'en fichent, mais je pense pas que c'est vraiment une minorité. Donc, l'ensemble du corps professoral, des inspecteurs d'académie, du personnel du rectorat, a une volonté de bien faire. Mais le problème, c'est cette méthodologie qui est appliquée et qui ne fonctionne pas. Et tant qu'on n'aura pas, je dirais, réinstitué, non pas forcément des cours descendants à 100% tels qu'on les faisait dans les années 60 ou 70, mais qu'on n'aura pas réinstauré une certaine forme de respect entre camarades...
Aussi.
Pardon ?
De verticalité. Le prof, c'est le chef, c'est pas l'élève. Il n'y a pas de notion d'égalité.
Exactement. Et le prof, c'est pas l'élève. Et on ne rend pas service non plus aux élèves sur deux angles. J'en prends que deux, mais il y en a plein d'autres. Le premier, lorsqu'ils vont arriver dans la vie professionnelle, cette verticalité, ils vont se la prendre en pleine face.
Alors, Didier, restez avec nous parce qu'on a retrouvé Aurore. Aurore, là, la ligne passe bien, a priori.
Oui, voilà, j'espère également. Mais là, ceci dit, je partage complètement les propos de ce collègue, parce que c'est exactement ce que je constate au quotidien. Je voulais juste rebondir sur le fait, par exemple, les téléphones portables, ils sont interdits. C'est OK, oui. Ils sont interdits. Alors je dis, mais on fait comment ? Ah ben oui, mais là, c'est à toi de les prendre, en début, comme dit le collègue, 55 minutes. Donc, il faut que je prenne les téléphones en début d'heure. On change de cours à chaque fois. Oui. S'il y a un problème, c'est moi qui suis responsable. C'est-à-dire que s'il y a un téléphone prétendument abîmé ou autre, c'est moi qui vais être responsable. Donc, c'est un bazar sans nom, alors qu'il y a des solutions. Il y a des solutions applicables. Mais personne ne veut prendre ses responsabilités. Et moi, je...
Aurore ? Allô, Aurore ? Ah, il y a eu à nouveau un problème avec Aurore. Aurore, vous êtes avec nous encore ? Allô, Aurore ?
Ça repasse,
allez-y.
Donc, je disais, le point de divergence que j'ai avec le collègue, c'est moi, c'est au niveau de la hiérarchie. La hiérarchie ne fonctionne qu'à la carotte. Et ils savent très bien que s'ils veulent grimper, et c'est leur objectif, même si les élèves sont au centre, soi-disant, de leur priorité, on va, c'est un vœu pieux. Ben, eux, ils veulent des résultats. Ils veulent que d'avoir des bonnes réponses pour les DSB. Bon, de toute façon, ils ne marchent que à
la
pas
carotte.
D'ennui
et
une bonne réussite. Oh, pas de vague.
Le fameux pas de vague.
Donc on se retrouve. Et on est tout seul avec nos classes et avec des élèves qui ne veulent pas travailler, parce qu'on n'a plus d'autorité de toute façon. Moi, ça me fatigue considérablement.
Alors, moi, il y a un mot que vous avez dit, Aurore, vous avez dit « je n'en peux plus ». Didier, on vous prend tous les deux en même temps, il nous reste un peu plus de 2 minutes. J'ai l'impression, vous dites, je n'en peux plus, je suis très contente que ce soit mon avant-dernière rentrée. Et vous avez constaté, Didier, vous, ce niveau de désespoir qu'Aurore nous décrit dans ses mots auprès de vos collègues titulaires.
Oui. Moi, j'ai vu des profs titulaires... en lycée pro, qui se sont mis à pleurer, qui étaient vraiment à bout de nerfs. Moi, pour autant, j'aurais bien voulu continuer parce que ça me plaisait, tout simplement. Mais je voudrais rebondir simplement sur quelque chose qui est très important. La deuxième chose, c'est qu'on ment en fait aux élèves, parce que en leur donnant le bac, j'allais dire relativement facilement, parce que 90% de réussite au bac,
oui.
Franchement, il faut mettre ça en corrélation avec... l'employabilité, je dirais, des jeunes.
Et si on prend ceux qui n'ont vraiment rien fait de l'année et qui le ratent par la force des choses et parce qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent, c'est vrai que faut faire de gros efforts pour le rater, grosso modo, hein.
Oui, et puis le problème, c'est qu'en fait, quand les jeunes, certains jeunes quittent le lycée et s'engagent dans la vie professionnelle, ils se prennent cette verticalité de la hiérarchie en pleine face, hein, il n'y a pas d'autre mot, donc c'est très brutal. L'adaptation n'est pas forcément évidente pour eux, et surtout, on leur ment en fait sur le niveau en fait du bac. Moi, je dirais qu'un bac, quel qu'il soit général ou pro, si on n'a pas à minima une mention bien et idéalement très bien, il a beaucoup moins de valeur en fait que celui que d'autres jeunes ont pu passer il y a ne serait-ce que 20 ans. Voilà. Et il y a aussi effectivement quelque chose qui existe parmi les mécanismes qui permettent en fait aux étudiants, aux élèves d'avoir leur bac. Il y a ce qu'on appelle l'harmonisation, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, en fait, un jury se réunit. Et même si l'élève n'a pas totalement sa moyenne, admettons qu'il lui manque un pouillem, un point ou quelque chose, normalement il n'aurait pas dû avoir son bac, mais on va lui donner son bac. Alors, on ne peut pas dire que les chefs d'établissement ne soient omnimulés que par le taux de réussite au bac, mais le taux de réussite au bac rentre évidemment dans une ligne multiple d'objectifs qu'il doit remplir. Et évidemment, dans leur progression de carrière, si la réussite au bac s'effondre en termes de valeur pourcentage chaque année, même si effectivement les jeunes trouvent un boulot pour ceux qui ont le bac peut-être plus facilement parce qu'on a relevé le niveau pour le coup, eh bien ils seront moins bien jugés très probablement par rapport à ça. Et ça, c'est aussi un problème. Et il y a une certaine omerta, c'est ce que je voulais dire dans le peu de temps qui nous reste, c'est-à-dire qu'en fait, le système s'auto-alimente. Et finalement, en fait, personne, comme disait ma collègue, Aurore, personne n'ose faire de vague.
Aurore, on va vous donner le mot de la fin, Aurore. Vous êtes d'accord avec le diagnostic de Didier ?
Oui, bien sûr. Mais de toute façon, on ne veut pas voir les choses. Les seules choses qu'on met en avant, c'est oh ben ils ont les vacances. Oh ben en plus il y a des erreurs qui sont écrites dans sur nos salaires, nos revenus, c'est l'horreur. Hein. C'est l'horreur. Faut voir nos heures de travail officielles et toutes les autres qui sont officieuses.
Ah ben,
quand
oui,
le collègue disait on arrive à 50 heures sans problème dans la semaine. Et ça, personne ne le voit. Donc la fatigue physique, la fatigue morale, parce que ce travail pour aucun résultat derrière, un résultat qui en tout cas est totalement faux et qui est déconnecté d'une réalité. Les exigences sont tombées très bas, mais bon, on fait plaisir aux parents, on fait plaisir aux gamins.
C'est...
Tout le monde est content.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Didier de nous avoir contactés. Merci beaucoup Aurore de nous avoir appelé au 0826 300 300. Voyez ce type de résultat, de témoignage vécu. Appelez-nous, laissez-nous des mails, laissez-nous des SMS. Les mails, c'est jeparticipe@sudradio.fr. Les SMS, si je ne m'abuse, Maxime, c'est bien le 6-20-18, c'est ça ?
Le 7-20-18.
7-20-18, pardon, j'avais un chiffre de retard.
C'est la rentrée, c'est normal.
Si tu suivais.
Ouais, toujours, vous savez, je suis toujours là.
Les SMS au 7-20-18, les mails à jeparticipe@sudradio.fr et bien évidemment, le répondeur des Vraies Voix et de Sud Radio, le 0826 300 300. On va changer de sujet tout de suite, on va parler du port du voile, un sujet qui vous a fait réagir pendant les Vraies Voix. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
19h-20h, les Vraies Voix écoutent la France, Philippe David.
Retour des Vraies Voix écoutent la France, on a eu ces témoignages d'enseignants et d'ex-enseignants qui étaient passionnants ce jour de rentrée des profs. On pense d'ailleurs aux profs, on leur dit bonne rentrée. On pense également, bien évidemment, aux élèves et aux parents d'élèves. Et on leur souhaite une bonne rentrée également, puisque ce sera désormais dans quelques heures, demain matin. Un sujet vous a fait réagir dans les Vraies Voix. On a parlé de Jean-Philippe Tanguy, du Rassemblement National, député Rassemblement National, qui avait dit qu'il était parti. Il fallait mettre des amendes, si le RN arrive au pouvoir, aux femmes voilées dans les rues. Andrea Cotarac a pris le contre-pied de Jean-Philippe Tanguy et vous voulez réagir sur le port du voile, direction la Bretagne. Van, bonsoir Arnaud.
Bonsoir Philippe.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes pour la verbalisation du port du voile ?
Ah bah oui, ça me semble un minimum. Pour moi, c'est une mesurette. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit efficace. Avoir l'insolvabilité des contrevenants quand il s'agit de voyages métro ou SNCF, on n'arrive jamais à récupérer les amendes.
Ah, c'est sûr. Donc, que toutes les amendes, quelles qu'elles soient, même routières aussi, a priori, il y a un taux de recouvrement sur les amendes qui n'est pas particulièrement brillant.
Ben voilà. Voilà, donc c'est pas un problème financier, pour moi c'est un problème culturel. En plus de ça, c'est des gens qui ont des financements occultes pour trafic de drogue et compagnie.
Alors je ne sais pas, ça, bon. Je ne sais pas, j'ai aucune preuve dans ce domaine. Hein. Toutes les personnes qui mettent le voile n'ont pas de financement occulte. Hein. Il y en a, c'est pour leur conviction religieuse. Hein.
Leur conjoint ou leur voilà, et puis
pas tous.
On applique des amendes qui sont destinées aux locaux, aux nationaux, et je pense pas que ce soit dissuasif auprès de ces gens-là, parce qu'ils en font
affaire culturelle. Vous allez pas mettre une peine de prison pour quelqu'un qui porte le voile quand même.
Interdiction dans le domaine public. Ils peuvent mettre le voile chez eux, c'est pas gênant, mais interdiction dans le domaine public.
Et est-ce que vous êtes pour l'interdiction de tous les autres signes religieux dans ces cas-là ? Exemple, la kippa.
Oui.
D'accord. Et pour les ministres du culte, un curé en soutane dans la rue, il retire sa soutane, ou une bonne sœur en tenue de bonne sœur ?
Ah ben non. Non, parce que c'est leur métier.
Donc un imam pourrait se promener en tenue d'imam, et un rabbin en tenue de rabbin.
Clairement. Oui. Oui.
Alors,
oui, c'est leur métier.
Alors, Arnaud, restez avec nous. On a Xavier de Floirac qui n'est pas d'accord avec cette idée. Bonsoir, Xavier.
Bonsoir, Philippe. Bonsoir, les Vraies Voix.
Eh bien, écoutez, on vous écoute. Vous n'êtes pas d'accord avec la proposition de Jean-Philippe Tanguy.
Non, pas vraiment d'accord. Je pense que c'est une proposition relativement absurde, en fait, car dans les faits, il faudrait, pour respecter le principe d'égalité, il faudrait interdire vous l'avez dit, le port de la kippa, le port de la croix, le port du voile chez les bonnes sœurs, le port de la soutane chez les religieux. Enfin, c'est absurde. Et puis, ce serait contraire au principe de laïcité. Dans la République française, on s'est battu pour la laïcité parce que on est un pays, malheureusement, qui a connu des guerres de religion avec des centaines de milliers de morts où les catholiques et les protestants s'entretuaient parce qu'il y avait cette haine de l'autre qui était là, un autre chrétien, mais qui était un protestant ou un catholique. Et donc, on a fondé, nous, le principe de laïcité qui fait que l'État ne reconnaît ni ne subventionne aucune religion et laisse la liberté aux citoyens français d'exercer leur culte, de porter des signes religieux dans l'espace public tant que le visage n'est pas dissimulé. Je pense que c'est important de conserver ce principe de laïcité et de l'appliquer de manière stricte. Pourquoi ? Parce que c'est l'unité nationale qui est en jeu. Et je pense que cette proposition, finalement, elle dessert le Rassemblement national parce qu'ils ont voulu peut-être alimenter un peu leur fonds de commerce avec cette histoire. Mais à mon avis, ça va plus les desservir politiquement que les servir, parce que ça rappelle en réalité une partie de l'identité politique du Front National, nouveau Rassemblement National, qui est un parti qui malheureusement a des origines, des racines réactionnaires, qui fantasme une France du passé, qui a du mal à s'adapter à l'évolution de la société française. Oui, il y a beaucoup de Français, il y a 5 ou 6 millions de Français qui sont musulmans, qui gagnent leur vie légalement, qui sont très bien intégrés dans la société française, qui ont des activités totalement légales et qui se sentent pleinement français et qui sont stigmatisés par ce type de proposition. Et je pense que cette proposition masque les vrais enjeux économiques et sociaux qui permettraient à la France, aux Françaises et aux Français d'aller mieux, des enjeux qui sont plutôt économiques et sociaux, mais qui touchent au pouvoir et aux inégalités.
Xavier, je voulais vous poser une question et redonner la parole à Arnaud en la foulée. Vous êtes pour l'autorisation du port du voile, mais de la kippa, etc., même si on n'est pas ministre du culte, contrairement à Arnaud, n'importe quel culte, soit dit en passant. Hein. Et est-ce que vous êtes favorable à la loi de 2010, à la loi de 2004 déjà, qui interdit les signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires, et la loi de 2010 qui, elle, a interdit la burqa dans l'espace public? Est-ce que vous soutenez ces deux lois?
Oui, je suis plutôt favorable dans l'esprit. Je pense qu'il y a des lieux. Donc les services publics, dont l'école évidemment, la loi de 2004, mais
je vous coupe, c'est pas le cas partout. Moi j'ai déjà été contrôlé à l'aéroport à Londres par un sikh avec son turban sikh, etc. C'est la laïcité, c'est très franco-français, soit dit en passant. Hein.
Oui, bien sûr. Après, la société anglo-saxonne, c'est une société très morcelée,
c'est vrai.
Avec très communautaire. Nous, on n'a pas cet idéal du citoyen. On a un idéal, l'idéal républicain français. C'est un citoyen qui se fond dans une identité commune, une identité nationale, où on respecte les différences, mais où on s'apprécie par notre unité, par nos points communs. Et donc, nos différences ne sont pas des choses qu'on va mettre forcément en avant. Ce sont plutôt des choses qu'on peut garder pour nous, mais on n'essaye pas d'exacerber les communautés comme c'est le cas dans les sociétés anglo-saxonnes. Je pense que la société française, elle a permis quand même, grâce à ce modèle-là, d'intégrer beaucoup de vagues d'immigration. J'en suis la démonstration. Vous voyez, moi, mon père s'appelle Kader Chaouch. Je suis parfaitement français. Je connais mon histoire de France. J'aime mon pays. Et je peux vous dire et assurer à l'auditeur précédent qu'il y a des millions, et je ne suis pas musulman pour autant, mais il y a des millions de musulmans, de juifs, d'hindous, de je ne sais quelle autre religion,
de
qui se sentent pleinement français. Et qui, pour autant, pourraient porter un signe religieux dans l'espace public, tant que ça ne pose pas de problème d'ordre public.
Xavier, on va laisser répondre Arnaud. Arnaud, qu'est-ce que vous voulez répondre à Xavier? Je trouve qu'il dit plein de choses intéressantes.
La laïcité, il n'y a pas de demi-mesure. On est complètement laïque, on est d'accord. Et dans le domaine public, aucun signe ostentatoire ne doit apparaître. C'est une particularité française, effectivement, par rapport à l'Angleterre.
Pour les agents publics et dans les services publics, par exemple, les élèves n'ont pas le droit d'être voilés ou d'avoir une grande croix, ou etc. Voilà.
Oui, on a rarement vu des grandes croix.
J'ai pris un exemple écuménique, vous me passerez l'expression.
Oui, moi je vous dis, c'est très simple, c'est interdiction dans tout le domaine public de tout signe ostentatoire de toutes les religions, sauf les ministres du culte musulmans, catholiques, juifs, mais... qui ont la possibilité effectivement de porter leur signe ostentatoire, puisque c'est leur métier.
Mais Arnaud, je vais vous poser une question. On voit souvent, je vais citer une avenue, l'avenue Montaigne à Paris, où il y a toutes les boutiques de luxe des grands couturiers français. Juste à côté, il y a tout, enfin non, une bonne partie des grands palaces parisiens. On voit des familles qui viennent du Golfe Persique avec des femmes voilées. Je peux vous dire que, en termes de dépenses, elles font le bonheur des grands couturiers français et de leur boutique de l'avenue Montaigne, et des rues adjacentes, hein, parce qu'il n'y a pas que l'avenue Montaigne, et des palaces, c'est pas une bonne manière de les faire fuir? Ou alors vous dites, bah, écoutez, pour les touristes, on pourrait avoir une tolérance, parce que là, on se tirerait une balle dans le pied, notamment vu les sommes dépensées qui sont mais considérables, hein, soit dit en passant, en général.
J'entends bien, mais ce ne sont pas des citoyens français. Donc à ce moment-là, la loi ne s'applique pas.
Quand mais dans ces cas-là, une femme, par exemple, qui est marocaine ou sénégalaise en France... Elle, la loi ne s'applique pas à elle parce qu'elle n'est pas française ?
Identité, sa carte d'identité ivoirienne ou comorienne ou ce que je sais, prouve qu'elle n'est pas française. Donc elle a le droit de porter son... elle ne porte pas son voile puisque elle est dans le domaine public français.
Oui, mais, donc, mais dans ces cas-là, une koweïtienne ou une saoudienne ou une émiratie qui dépense des millions, elle aura le droit de porter le voile, elle, ou pas ?
Non.
Ah bah dans ces cas-là, vous allez faire fuir les touristes. Enfin, certains touristes très fortunés.
Ben, si je vais en Algérie, ma femme sera obligée de porter un voile, voilà.
En Algérie, non. En Arabie Saoudite, oui.
Ben, vous savez, ici en Bretagne, on a un émir du Qatar qui a voulu construire, qui a financé pas mal de choses dans le sud de Bretagne. Il a commencé par dire qu'il fallait raser une chapelle qui était à l'entrée du port parce que son yacht était gêné par ce visuel. Oui. Bon, on lui a dit que non, c'était pas possible.
Oui, c'est tout à fait normal d'ailleurs d'avoir dit non.
Bah oui, ça me semble normal. Donc c'est pareil, la laïcité française, elle doit s'appliquer dans nos rues pour tous les citoyens français.
La loi, ça s'applique à tout le monde, hein, citoyen français ou étranger, hein, si on décide pour les rues. Hein. Et qu'on soit français, je ne sais pas moi, camerounais, guatémaltèque ou saoudien. Xavier, mot de la fin, il nous reste une grosse minute trente.
Eh bien écoutez, je pense que le Rassemblement National a fait le buzz pour la rentrée avec cette proposition. Malheureusement, je pense que c'est un mauvais choix, une mauvaise tactique en termes de communication politique. Je pense qu'il se tire vraiment une balle dans le pied. Je ne sais pas quel communicant, quel stratège a pensé à sortir ça à la rentrée, mais à mon avis, c'est une sacrée bourde et ça leur donne, ça va les faire ramer pendant un moment parce que en fait, il y a eux qui essayent d'arriver au pouvoir. Pour arriver au pouvoir, il faut convaincre 50% des gens.
Et oui, il y a des gens 50 plus 1, exactement.
50 plus 1, exactement. Et ces gens qui manquent dans l'électorat Rassemblement National, qui seraient peut-être prêts à passer le cap, vont sûrement déchanter et sûrement ne pas être totalement d'accord avec ce type de proposition. Parce que voilà, on l'a démontré, je pense que je l'ai démontré, vous aussi. Je pense que c'est assez clair en fait hein, pour les gens. Cette proposition a un goût assez amer. Et n'est pas adapté à la société française.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Xavier de Floirac, c'est en banlieue de Bordeaux. Je salue d'ailleurs Maxime, notre excellent réalisateur, qui est de ce beau département de la Gironde, de
Sestas.
On salue les auditeurs de Gironde, on pense à eux notamment. On avait un auditeur du Porge tout à l'heure pour parler du drame qu'ils ont vécu. On pense également aux victimes de la tornade dans l'Aude. Merci beaucoup à tous les deux. Dans quelques instants, on va parler de la Marseillaise et du drapeau dans les écoles. Proposition d'Éric Ciotti. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose ou pas? Venez témoigner au 0826 300 300.
19h-20h, les vraies voix écoutent la France, Philippe David.
Les vraies voix écoutent la France tous les soirs du lundi au jeudi de 19h à 20h. On a parlé des problèmes des enseignants, ce jour de rentrée enseignante. On a parlé du port du voile qui vous a fait réagir lors des vraies voix. Et il y a un autre sujet dont on a débattu dans les vraies voix, c'est la proposition d'Éric Ciotti de mettre le drapeau dans les cours des établissements scolaires de la ville et de chanter la Marseillaise une fois par semaine. Et ce sujet vous fait réagir. Bonsoir Hector.
Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci de me donner la parole.
Avec grand plaisir.
Alors, vous m'entendez ? Oui.
Très bien.
Ouais, voilà, excusez-moi. Moi je voulais réagir sur ce sujet. Donc moi je pense que c'est une très bonne initiative, monsieur Ciotti. Et oui. D'ailleurs, on devrait la généraliser à toute la France. Et je tenais à réagir parce que le sujet m'a particulièrement énervé aujourd'hui. Parce que j'ai regardé une émission qui s'appelle Brunet sans filtre sur LCI.
Oui.
Et je vais le citer. Parce que il estimait que c'était du patriotisme suranné. En fait, le mec a complètement craché sur un drapeau. Alors moi, je vais vous dire ce que ça représente, un drapeau. J'ai fait l'Afghanistan, et quand oui. le drapeau se lève et quand on chante la Marseillaise, je vois mes collègues qui sont morts, et on a chanté la Marseillaise. Et j'ai vu leur cercueil partir avec la Marseillaise et recouvert d'un drapeau bleu, blanc, rouge. Et à l'heure actuelle, je suis policier et j'ai des collègues, soit qui meurent, soit qui se foutent en l'air, et derrière, il y a toujours un drapeau bleu, blanc, rouge. Alors ça n'a rien de suranné. Et je vois le ministre de l'Éducation nationale qui, pareil, pousse des cris d'orfraie en disant « Oh mon Dieu, un drapeau, après tout, il y a marqué quoi sur le fronton de nos écoles ?»
Liberté, égalité, fraternité, absolument.
Je suis pas certain que ce soit un autre drapeau qui doive primer dans une école. Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, c'est un sujet qui est particulièrement sensible quand je vois justement des espèces de pseudo-journalistes, parce que pour parler comme ça, il faut être un pseudo-journaliste, que ça dérange mon drapeau pour
alors,
lequel...
Alors, c'est l'avis d'Éric Brunet. Si c'est lui qui a dit ça, c'est ouais, son ouais. avis et...
Oui, non, évidemment, mais ce que je veux dire,
c'est
qu'après...
On peut être pas d'accord avec lui, soit en passant.
Autour, hein. Autour de son plateau, ils avaient l'air tous très d'accord et très moralisateurs, et ça, je veux dire, c'est un manque de respect pour tous les gens qui sont morts pour ce drapeau et qui continuent encore à mourir pour ce drapeau.
Alors, Hector, reste avec nous, nous avons Hervé.
Oui.
Bonsoir Hervé, d'Antony, en Ile-de-France.
Oui, bonsoir.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'accord avec cette initiative d'Éric Ciotti ?
Moi je suis plutôt d'accord. D'abord, je suis ancien enseignant.
Oui.
J'ai travaillé sur l'histoire de la Révolution française. J'ai même écrit un livre, vous voyez, sur l'histoire de la Marseillaise.
Ah, oui.
Il y a longtemps, mais j'en ai quand même écrit un. Donc, la Marseillaise, c'est un serpent qu'on déroule et qui revient régulièrement. Là, il y a longtemps que je l'ai écrit, mais je crois que je pourrais encore faire un ou deux chapitres parce que elle est de toutes les polémiques et l'origine, quand ça a été créé au printemps 1792, en octobre 1792, il y avait déjà une Marseillaise de la Courtille. On se moquait déjà de la Marseillaise. Donc, vous voyez, toutes ces polémiques ne sont pas nouvelles. Alors, pour revenir, si vous voulez, à Éric Ciotti, il a tout à fait raison. J'ai entendu dire que le ministre n'était pas content, le ministre de l'Éducation nationale, mais le ministre de l'Éducation nationale, pour une fois, il intervient, mais toujours, il intervient à mauvais escient parce qu'il aurait il aurait dû dire il y a un périmètre de l'État, mais c'est une bonne initiative, bien évidemment. Moi, je sais que quand je faisais apprendre aux élèves de 4e la Marseillaise, ils se battaient ensuite pour venir non seulement dire les paroles, mais la chanter au tableau.
Ah oui, effectivement. En 4e ?
Oui, parce que c'est le programme de 4e, puisqu'on fait la Révolution française en 4e.
D'accord.
Et on le fait aussi en première, mais bon, c'est autre chose pour les premières, parce que c'est du plus grand, mais ils aiment bien savoir n'importe comment, ils aiment bien connaître.
Enfin, excusez-moi, mais je pense qu'on doit... moi, je sais pas, ma génération, je viens d'avoir 60 ans, on connaissait la Marseillaise avant d'aller en 4e.
Bien sûr, non, mais je le dis pour les tristes cires qui ne voudraient pas qu'on remette la Marseillaise, mais elle est déjà mise, elle est déjà enseignée, bien évidemment, et même dans les petites classes en primaire, CM1, CM2, hein, bien évidemment.
D'accord. Alors, restez avec nous, Hervé. On va reprendre Hector, on a entendu votre vécu. C'est sûr que, ayant fait l'Afghanistan, ayant vu certains de vos camarades de combat partir dans des cercueils recouverts du drapeau tricolore, on comprend que le sujet du drapeau et de la Marseillaise soit prégnant chez vous, comme tous ceux qui se sont battus sous l'uniforme français. Et est-ce que, moi je faisais la comparaison, je ne sais pas si vous avez entendu dans les vraies voix tout à l'heure, quand j'ai dit que moi j'étais aux États-Unis, j'ai passé un petit séjour, un petit peu long, mais pas très très long non plus, à l'époque de Reagan, il y avait le drapeau américain et le drapeau de l'État dans chaque salle de classe et pas dans chaque école. Et est-ce que quelque part la France est en train de s'américaniser avec ça ou pas pour vous ? Allô Hector ?
Oui, vous m'entendez ?
Hector, on vous entend, oui, très bien.
Oui. Non, je pense pas qu'on n'est pas en train de s'américaniser, et d'ailleurs je crois pas que sur ce sujet-là, ce soit un gros mot de s'américaniser.
Ah non, attendez, c'était pas du tout un gros mot dans ma bouche. Hein.
Évidemment, non mais pour certains, j'entends, pas pour vous, hein, évidemment, moi au contraire, le drapeau de l'État, parce qu'en plus de ça, je suis d'une petite île de Méditerranée sur laquelle nous sommes particulièrement attachés au drapeau, on va dire, régional, moi ça ne me touche
pas. C'est un drapeau qui a une tête de mort, M-A-U-R-E, je parie, c'est ça ?
Voilà, d'accord. Exactement, donc ce que je veux dire, c'est que, alors moi ça ne m'a jamais choqué, j'ai mon drapeau bleu-blanc-rouge, j'ai ma petite île au cœur et l'un n'empêche pas l'autre. Et au contraire, si il peut y avoir une fierté régionale qui soit bien placée, ça serait peut-être même un petit bonus parce que c'est notre patrie charnelle en fait et c'est notre France en fait. C'est ça le truc.
Mais est-ce que vous ne croyez pas que quelque part, alors je l'ai dit tout à l'heure dans le débat des vrais mots, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, ça n'a pas été quelque part, ce que fait Ciotti, ce n'est pas le rattrapage de ce qu'on avait, ma génération, quand on allait au service militaire, où on avait le lever des couleurs le matin, on était au garde à vous, etc.
C'est exactement, je suis d'accord avec vous. De toute façon, il y a eu pour des raisons budgétaires et autres, ils ont supprimé le service militaire, il faudrait le remettre, mais que ce soit un vrai service militaire avec, et même on peut parler de service militaire, mais on pourrait très bien faire un service militaire dans la police, la gendarmerie, voire même les pompiers, et instaurer cette espèce de retrouver en fait cet attachement qu'on a à notre pays et à notre drapeau, parce qu'en fait c'est simplement, ça fait partie de notre c'est du civisme en plus de ça.
C'est sûr,
tout
c'est
simplement
sûr.
C'est l'attachement à notre pays. Et bien sûr. Est-ce que vous avez connu à votre époque, est-ce que mon père qui a servi aussi a connu? Et quand on pense à notre drapeau, ça signifie quelque chose. Mais je voulais vous dire un truc. Moi, j'ai connu l'éducation nationale. Donc, j'ai 35 ans. Moi, j'ai connu l'éducation nationale où parler de patriotisme pour beaucoup de profs, c'était très suspect, surtout dans la bouche d'un gamin de 16 ans. Donc là, on est en train juste de payer les pots cassés. Je suis désolé encore de la mentalité de gauche qui a fait du patriotisme une honte et de l'universalisme un gage de soi-disant ouverture d'esprit, tellement ouvert d'esprit que maintenant on en arrive à la fracture du crâne en fait.
Alors, c'est votre point de vue. Et Hervé, vous êtes d'accord avec ça que quelque part on rattrape la fin du service militaire avec cette proposition d'Éric Ciotti ou pas ?
Oui, on le rattrape, mais si vous voulez, puisque vous êtes journaliste, ça revient régulièrement, ça revient tous les 3-4 ans, cette histoire. Alors l'auditeur Hector a tout à fait raison. Si vous voulez, comment ?
Hector.
Hector, oui, j'ai dit autre chose.
Non, vous avez dit l'auditeur et je rappelle son prénom.
Non, mais j'ai dit Hector, oui, bien sûr.
Attardez, autant pour moi.
D'accord. Non, mais il a tout à fait raison. Mais c'est-à-dire que la gauche et l'extrême, c'est surtout aussi l'extrême gauche. La gauche, bien sûr, mais l'extrême gauche, si vous voulez, qui stigmatise eux, qui sont contre la stigmatisation, qui stigmatise la France, la patrie, l'idée de patrie, l'idée de nation. L'idée de nation, elle vient de la gauche. C'est-à-dire que la notion de nation, elle vient de la Révolution française.
Absolument.
Et c'est la gauche. Et donc la gauche maintenant est contre sa propre histoire, elle est contre la France, elle est contre l'universalisme, elle est pour les particularismes, et donc on est vraiment à front renversé. Et donc c'est vrai que c'est fatigant de voir que ils ne respectent pas si vous voulez l'histoire de leurs aïeux en définitive.
J'aurais aimé vous avoir comme professeur.
Voilà. Ben écoutez, Hervé, vous êtes en retraite et Hector, désolé de vous le dire, mais à 35 ans, vous n'avez plus le droit de retourner sur les bancs du lycée. Là, vous avez passé la date limite.
Malgré qu'on apprenne tous les jours, surtout dans mon métier.
C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Hector de Montpellier et Hervé d'Antony. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous
merci
pour
à
cette
vous.
Première des Vraies Voix Écoute la France. On va parler, bonsoir Louis de Kergorlet.
Avec vous, Philippe, je vais vous le faire un petit teasing de ce qui nous attend demain.
De demain,
exactement.
Oui. Alors, on vous écoute.
Alors, écoutez, vous n'aurez pas échappé. Demain matin, c'est la rentrée des classes. Okay. Donc, on recevra Madeleine de Gessé, professeure de lettres, auteure de l'école des illettrés. Réapprendre à lire et écrire, ce sera à 7h10. À 7h35, on va faire un sujet sur open bar des arrêts maladie. Alors, est-ce que c'est un mythe ou est réalité? On en parlera avec notre invité. 8h15, nouveau rendez-vous, parlons cash. Maître Christophe Leguévac qui a créé l'initiative Péage Autoroute pour lutter contre la hausse des tarifs. Des péages. Oui. Et puis à 8h30, invité politique François Picmal, député LFI et ancien candidat à la mairie de Toulouse, sera l'invité de Jacques Cardoz.
C'est cette matinale alléchante, c'est dès demain matin à 7h sur Sud Radio.
Exactement.
Merci à vous Louis, on salue Jacques Cardoz.
Bonsoir François Triot.
Bonsoir Philippe David, je vais me lever moi, demain à 7h, vu le programme, je vais me lever.
Ah bah parfait, ouais. Alors on se lève tous pour Sud Radio, ça me rappelle un slogan, vous voyez ce que je veux dire. Alors, au cœur de la mêlée, quel est le menu ce soir?
Et oui, au cœur de la mêlée, le lundi soir, hein, que l'on oui. retrouve tous les lundis de 20h à 21h, le programme c'est la rentrée, parce qu'aujourd'hui il y avait la conférence de presse de rentrée du Top 14, le Top 14 reprend le week-end prochain, donc on a vu un joueur de chaque club, bref, il y aura Jean-Baptiste Elissalde, Philippe Spanguero, le tour d'horizon de la saison. On parlera également de Pro D2, puis des nouvelles oui. règles aussi avec le patron d'Azerbrick, Mathieu Reynal. Il y aura Jules Plisson aussi, entraîneur de, un des entraîneurs de Provence Rugby, qui sera avec nous.
Je voudrais parler à l'ancien rugbyman. Vous aimez les nouvelles règles ou pas? Parce que dans le rugby, ça bouge quand même beaucoup. Hein.
Oui, mais c'est à la fois, c'est, vous savez, pour tous les juristes qui nous écoutent, c'est un peu comme le droit administratif. C'est évolutif. Voilà, ben c'est ça le règlement du rugby. C'est pas un droit qui est figé, c'est un droit qui évolue, donc il faut se mettre à jour à chaque rentrée. Donc c'est très bon intellectuellement.
Et ben vous êtes fan de rugby, vous voulez réagir sur ces nouvelles règles, sur le Top 14, sur la Pro D2, qui a déjà bien commencé. Hein. On a joué beaucoup de matchs de Pro D2. Venez témoigner au 0826 300 300 pour vous exprimer dans Au cœur de la mêlée avec notre ami François Triot et ses chroniqueurs. Merci à vous, on se retrouve demain à 17h avec Cécile de Ménibus et Patrick Roger pour Les Vraies Voix, et évidemment de 19h à 20h pour Les Vraies Voix Écoute la France. Vous voulez témoigner, le 0826 300 300 avec le répondeur, le 728 pour les SMS, et je participe à sudradio.fr. à demain.